pour nos travaux et c'est la dernière séance, entièrement montpelliéraine, mais on peut même dire valérienne, parce que nous sommes tous les trois de l'université Paul Valéry. Alors, si j'avais été une charmante jeune femme, on aurait pu symboliser les trois grâces qui décorent la célèbre place de la Comédie à Montpellier, mais enfin, je brise un peu l'harmonie. Vous avez pu donc apprécier déjà ce matin les qualités de chanteuse, Isabelle Favre et de Gisèle Duval, que nous allons maintenant apprécier leur qualité de chercheur. En écoutant d'abord donc Isabelle Favre, qui va nous parler d'un motet dans un manuscrit de Turin de la Bibliothèque nationale.
Merci. J'ai fait une bêtise, juste avant de savoir que ça marchait bien, mais vous voyez, voilà, ça... Merci Marie. Donc en fait, je vais vous parler d'un motet, une pièce précise, qui est en fait, qui s'inscrit, enfin, en tout cas mon propos s'inscrit, dans le cadre d'une recherche consacrée aux pièces françaises du manuscrit de Turin, dont j'ai corrigé la cote, hein, il y a une erreur dans le programme J29, un recueil qui est lié à la cour française des Lusignans, Chypre, et qui a été composé vraisemblablement dans le premier tiers du XVe siècle. Donc dans le cadre de cette recherche, hein, qui doit aboutir à l'édition de ce corpus, je me propose de mettre en évidence des effets produits par la superposition des maîtres et des rythmes musicaux dans le motet 19, qui est l'une des pièces françaises qui forment le corpus des motets dans le manuscrit. En examinant tour à tour les deux voix à texte du motet, que vous avez entendu tout à l'heure, c'était le premier chant, d'abord le triploum, qui est la voix ici la plus conventionnelle avec son rythme décasyllabique, puis le douploum, énoncé simultanément, et cadencé en 7-3, et enfin les distorsions rythmiques produites par la mélodie, notée au-dessus, on mettra en évidence les altérations phonétiques provoquées par la superposition des voix et la dérive sémantique qui s'ensuit et qui produit, en fin de compte, un troisième poème, né de la concaténation musicale des deux premiers. Donc c'est ce troisième poème que j'aimerais, me propose de vous faire entendre, ou d'essayer de vous faire entendre. Alors un mot simplement dans l'introduction pour préciser ce dont il s'agit, ce recueil conservé aujourd'hui à Turin, qui est unique, dans le sens du terme, puisqu'il conserve ce qui est vraisemblablement, en tout cas au dire de Gilles Griveaux, historien spécialiste de Chypre, vraisemblablement la dernière grande œuvre de cour composée en français dans l'île, hein, alors sous la domination des Lusignans. Et il est unique aussi parce qu'il contient un ensemble de pièces liturgiques ou paraliturgiques, hein, des mouvements de messe polyphoniques, des offices, des motets, et en même temps un ensemble assez considérable de chansons profanes, chansons françaises en tout cas, 166 chansons notées, ballades, rondeaux et virelets, mais tout cela dans un recueil qui demeure aujourd'hui anonyme. Hein. Toutes ces pièces sont uniques, on ne sait pas qui les a écrites, pas plus le musicien que le ou les poètes d'ailleurs. Et ce dont on est sûr à peu près, en tout cas en voyant l'objet, hein, vous allez en voir des morceaux, c'est que, et en explorant évidemment son contenu, c'est qu'il s'agit d'un, non pas d'une compilation aléatoire, une anthologie comme on en trouve à l'époque, hein, de chansonniers, à usage performantiel ou pas, mais une copie soigneusement agencée, et du point de vue poétique, dont je m'occupe plus précisément, une œuvre. Puisqu'il y a une homogénéité et une qualité de ces poèmes que j'essaie de faire valoir à travers ces travaux. Donc c'est quand même déjà en soi un objet singulier. Sur le plan musical, c'est aussi un des grands témoins de ce qu'on appelle l'ars subtilior, cette dernière avancée de l'ars nova, hein, qui aboutit à des raffinements et des sophistications extrêmement développées. Alors, je vous dirai un mot aussi de ce qui constitue le corpus des motets, le Liber Motetorum, hein, dans le manuscrit, puisqu'il s'agit du fascicule central, donc peut-être une clé, hein, de lecture de l'ensemble du recueil. Et à l'intérieur de ce fascicule, ce qui est de singulier aussi, c'est la disposition, puisqu'il se compose d'abord d'un ensemble de motets latins. Donc, j'étudie parallèlement, mais c'est une autre problématique à beaucoup d'égards. Des motets latins à usage liturgique ou dévotionnel, hein, c'est difficile de trancher, pour certains, qui se répartissent en plusieurs cycles, un cycle détemporé, un cycle descentiste, qu'on retrouve dans un deuxième temps. Mais comme vous le voyez, ce deuxième cycle détemporé, d'abord, est beaucoup moins homogène. Il y a aussi des pièces descentistes. Et puis surtout, à partir de la pièce 19, qui est celle que je vais étudier aujourd'hui, on voit apparaître des pièces françaises. Une isolée, donc c'est celle dont je m'occupe, et puis, à la fin du recueil, un ensemble de motets français qui ont pour caractéristique d'être centrés sur la louange mariale, hein, ce sont tous une thématique mariale, avec la possibilité de contrafacta pour les pièces 39 et 40. Donc, la pièce 19, le motet 19, est déjà intéressant. Je m'y suis un peu arrêtée déjà dans cette optique-là, c'est parce que c'est la première pièce française isolée dans l'ensemble du recueil, mais aussi charnière, hein, puisque d'un point de vue musical, il inaugure la série des motets qu'on appelle panisorhythmiques, hein, strictement isorhythmiques aux quatre voix, c'est-à-dire que la musique est structurée par la répétition d'un segment rythmique, hein, ce qu'on appelle la taléa, qui donc constitue un segment qui va se répéter, bon ici il se répète deux fois, aux quatre voix, donc ça a déjà introduit une division extrêmement nette dans le discours musical. Par ailleurs, d'un point de vue poétique, on peut dire que cette pièce est un embrayeur thématique, puisqu'il introduit la topique mariale du verger. Donc c'est dans le lyrisme marial, au sein de ce lyrisme, il introduit cette topique du verger qui va se diffuser dans l'ensemble du recueil, en particulier dans les pièces, dans les chansons, dans les ballades, rondeaux et violées. Donc c'est une matrice intéressante aussi à ce titre-là. Alors, pour présenter un peu les choses, là vous avez le facsimilé du manuscrit qui présente comment, sur le papier, et c'est important de le voir pour mon propos, comment les choses sont disposées. Donc vous avez sur le folio verso, folio 76 verso, les deux voix de ténor au bas et de triplum, et en regard, donc si on ouvre le manuscrit, hein, c'est vraiment en regard, folio 77 recto, les voix de contraténor et de duplum. Donc triplum et duplum constituent les deux voix à texte que vous avez entendues, on voit le texte en dessous des portées, contraténor et ténor constituant la charpente, hein, si on le fondement, avec cette particularité que, autant pour les motets du 13e, on a souvent une teneur ténor d'origine liturgique, avec éventuellement un petit bout de texte, pour les motets de Chypre, à part une exception ou deux, il semble que la teneur ait été composée sur pièce, hein, sur le moment, et ne soit pas d'origine liturgique, donc pas de latin à se mettre sous la dent ici pour éclairer l'ensemble de la composition. Alors, je vais commencer par vous parler de la voix de triplum. Normalement, je devrais commencer par le duplum, mais vous allez voir que ça se justifie à certains égards. En tout cas, d'un point de vue thématique, c'est la voix qui énonce la célébration de la rose en tant que source ou médiatrice de grâce, selon le point de vue que l'on adopte. Alors, je me propose de vous lire la traduction que vous avez en italique à l'écran, aussi pour avoir vos réactions, dans la mesure où le projet d'édition que je mène en collaboration avec Gilles Polizzi, l'Université de Mulhouse, se propose d'éditer l'intégralité du corpus des chansons françaises, mais surtout d'en donner une traduction rythmique, justement. C'est-à-dire qui, pour une fois, mettent au second plan, relativement évidemment, le sémantisme, ou en tout cas la fidélité, la transposition exacte de l'ancien français, qui n'est pas toujours facile à comprendre, au profit d'une transposition poétique et rythmique du poème, c'est-à-dire une traduction qui fasse entendre le poème original comme un poème, et non pas qui le délite complètement, parce que l'expérience montre que si on traduit ces pièces-là, celle-là en est un bon exemple d'ailleurs, on affadit considérablement les choses, mais en fait il ne reste rien de la poésie en tant que telle. Donc c'est un peu une gageure, hein, mais bon, on a pris ce risque-là, sachant que pour répondre à l'attente légitime des philologues, l'édition sera accompagnée d'un lexique abondamment pourvu, pour justement expliquer que le mot « desgrâce », par exemple, au vers 8 du triplum, ne veut pas dire, littéralement parlant, la disgrâce, en tout cas, on peut entendre d'autres nuances si on veut traduire littéralement. Donc je vous lis simplement cette traduction, et je commenterai ensuite le poème. Vraiment, c'était nécessité que la rose eût si bonne odeur qu'elle assainit l'air infecté du beau verger rempli de fleurs.
Dieu l'a pourvu de sa douceur. Il lui donna si bonne grâce pour soulager de leur douleur les fleurs flétries par sa disgrâce. Que toutes veuillent honorer la rose à qui revient le prix. Elle seule peut les garder des embûches et du mépris. Car qui de son amour est pris, loyalement sait l'honorer, sûrement il a tout compris et son salut a bien gagné. Alors, reconstituer, enfin, montrer à l'écran le poème, vous l'avez sur la gauche, dans cette disposition versifiée, pose déjà une question qui apparaît, enfin, qu'on comprend si, je reviens un instant en arrière, on regarde la voix de Triclum telle qu'elle apparaît dans le manuscrit, c'est la question de ce que, dans les arts de seconde rhétorique de l'époque, on appelle la taille du poème. Autrement dit, on a à l'écran, enfin, dans le manuscrit, une lecture en disposition en continu qui s'explique par le fait que le motet n'est pas une forme fixe à refrain, et au point de vue musical aussi, et donc le discours se fait d'un seul bloc, il n'y a pas de reprise, la pièce se fait un tout sans refrain, sans répétition. Donc la difficulté, c'est que la métrique du motet pose problème dans la mesure où c'est une métrique souvent libre. On le constate, hein, surtout dans les motets du XIIIe siècle, entre autres le manuscrit de Montpellier. Donc, je me suis fondée, évidemment, ça fait apparaître tout de suite une structure, sur la disposition des rimes pour déterminer la taille, autrement dit, hein, la forme métrique et le groupement des vers en strophe. Alors, ce qui apparaît d'emblée pour le Triplum, c'est une forme en quatrain, à rimes croisées. Je vous montre le schéma, le commentaire là, à l'écran. Des quatrains à rimes croisées liés deux à deux par la reprise de la deuxième rime à l'initiale du quatrain suivant. Donc la rime B et la rime E qui font agrafe, d'une certaine manière, entre les deux quatrains. Donc ça, c'est un premier élément structural. Le deuxième, c'est à l'intérieur du vers qui est ici décasyllabique, la présence d'une césure à minori, 4 plus 6, on en a parlé tout à l'heure. Alors, j'ai indiqué, vous voyez, dans les cas de ce qu'on appelle les rimes féminines, un décompte 10 plus 1, pour la bonne et simple raison, enfin, elle est double en fait, ça n'est absolument pas un décompte qui répond au découpage classique du vers, mais on trouve, en tout cas, jusque dans l'art poétique de Jean Molinet, enfin, l'art de rhétorique de Jean Molinet, donc, c'est-à-dire troisième tiers hein, du XVe siècle, l'idée que les rimes féminines rajoutent tout de même une syllabe au vers. Le vers est parfait en rime masculine, il devient imparfait par ajout d'une syllabe, et on parle bien d'ajout d'une syllabe, dans le cas des rimes féminines. Alors, ça ne serait rien en soi, bon, si ce n'est que c'est une manière de noter les rimes féminines, si ce n'était que dans la musique, les E, les rimes en rimes féminines, sont chantées. Et sont chantées parfois de manière suffisamment étendue pour estimer qu'on peut quand même en faire quelque chose et que ça répond peut-être à une audition ou à une perception un peu différente du vers. Donc ça, c'est un premier élément. Et vous voyez que là aussi, dans la disposition des rimes, il y a une sorte de symétrie qui apparaît tout de suite entre les quatrains 2 et 4, structurés de la même manière. Alors, cet équilibre est tout de même interrompu dès le deuxième vers. Au niveau de la césure, on s'en aperçoit par le fait que apparaît une césure qui n'en est pas une, hein. Enfin ça dépend des théoriciens, mais c'est assez discuté, un décasyllabe amorphe ou libre, hein, selon les terminologies, mais en tout cas une coupe qui marque singulièrement l'entrée de la rose, du sujet du poème, dans le poème. Donc, qui introduit aussi un premier élément d'hétérorythmie, puisque au sein de cette pièce extrêmement régulière, on a cet élément distinctif. Alors, question, mais là, c'est une affaire aussi un peu subjective, je suppose, mais peut-être que les métriciens présents ici me diront le contraire, il me semble que dans le troisième quatrain, où on voit réapparaître la rose en qui main tout honneur et prix, on peut aussi se demander où se trouve la coupe, pour le coup, et... personnellement, et là ça fait débat avec mon collaborateur, mais bon, c'est comme ça que ça marche aussi, sur forme motétique, travail de recherche, lui pense que, enfin, a perçu la coupe comme étant après qui, la rose en qui, main tout honneur est pris. Et personnellement, j'avais tendance à la situer après le verbe « ment », comme finalement mettant en évidence aussi le complément d'objet direct, tout honneur et prix, formant une sorte de doublé synonymique pour la même occasion. Donc c'est intéressant de se poser la question, parce que là, du coup, cette deuxième entorse au rythme du décasyllabe intervient, comme par hasard, à la même place symétrique dans, par rapport au premier quatrain. Donc, un petit élément qui est une singularité et qui, du coup, parce qu'il est rare, met en évidence ici la structure fondamentale du point de vue rythmique de ce poème, qui repose sur un système globalement binaire. C'est le fait de symétrie, vous voyez, à tous les niveaux, dans le vers, dans la structuration des strophes, dans la découpe même du décasyllabe, renforcé aussi par un élément particulier au discours musical, qui est l'isorythmie, dont je parlais tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, vous voyez, je ne sais pas si je peux le faire, ah ben non, ça ne marche pas, bon, c'est pas grave, les deux traits obliques au début du troisième quatrain indiquent en fait la présence de l'isorythmie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, à ce point du vers, sur le mot « veuille », on retrouve aux quatre voix le même dispositif rythmique qu'au début. Donc, voilà, alors c'est pas un cas unique, hein, c'est beaucoup de motets sont structurés comme ça à l'époque, mais c'est assez singulier de voir que du coup, l'isorythmie ici distingue nettement deux huitains. Donc après, voilà, on peut vous couper encore dans les détails. Et que finalement, on aurait un rythme, tout ce qui est plus régulier, fondé sur des valeurs paires, des valeurs binaires, etc., si on ne le juxtaposait pas par l'énoncé simultané des deux voix avec la voix de Duplum, qui, donc vous l'avez entendu tout à l'heure, intervient simultanément. Alors, le Duplum, il présente un texte à la fois proche et très différent. Même principe, hein, si vous le voulez bien, je vous lis la traduction pour faire entendre aussi, au-delà des aspérités peut-être de la langue, les alternances rythmiques. Toujours il nous faut chérir et lire la beauté qui resplendit dans la rose épanouie, si jolie, qu'elle attire les bienfaits pour toute fleur rajeunir et guérir, celles qui par maladie sont desséchées par l'envie de celui qui s'évertue sans arrêt à toujours les tourmenter, opprimer et harceler sans répit, entraînant dans sa folie, tromperie, les fleurs qu'il voit prospérer. Alors, le principe, vous le voyez, est de forme et de rythme très différents. À la lecture, on s'en aperçoit tout de suite. Et pourtant, d'un point de vue thématique, on voit bien comment les deux discours s'articulent. En fait, on a affaire à deux états du même texte, une forme de conversation sophistiquée, comme dirait Olivier Culin, avec triple et double conjoint, un éloge amplifié de la rose mariale. Et on s'aperçoit du lien, j'allais dire, très net entre les deux, par une agrafe, ce que j'ai appelé une agrafe lexicale. Vous voyez, dans le dernier quatrain de la voix précédente, on a le syntagme amé et prisier, la rose évidemment, qu'on retrouve au début du Duplum, mais en position inversée, hein, c'est-à-dire au début, non pas à la fin, nous devons très fort amer et prisier. Les deux voix sont agrafées lexicalement par ce mécanisme de reprise lexicale. Alors, évidemment, l'intérêt d'un point de vue rythmique, c'est la disposition, le problème de disposition des vers, qui pose un problème parce que, là encore, les vers sont présentés en continu et qu'au fond, une des premières questions qui se pose, au-delà du constat qu'on a à faire un rythme 7 plus 3, donc à une hétérométrie, comment articuler les vers courts et longs? Autrement dit, j'ai adopté ici le système qu'avait la transcription qu'avait adopté le musicologue Richard Hoppin, hein, qui s'est le premier occupé de ce manuscrit, donc alternance 7-3, qu'on trouve aussi chez Machaut et d'autres auteurs, compositeurs à l'époque. Mais au fond, on pourrait très bien dire que ce qui correspond ici à un système de décasyllabes brisé, 7 plus 3 égale 10, donc des rimes, un système de rimes bâtelées, comme s'approche de rimes bâtelées, pourrait aussi très bien donner lieu à une reconstitution. On pourrait très bien mettre sur une seule ligne, nous devons très fort amer et prisier, et du coup aboutir à un décasyllabe qui n'est certes pas coupé de manière orthodoxe, entre guillemets, mais qui ferait apparaître un système, cette fois-ci, de rimes internes, proche, pas tout à fait la même chose, mais proche de ce qu'on appellera plus tard les rimes couronnées. Donc il y a un regroupement possible entre les vers de 7 et les vers de 3 syllabes ici. Donc une alternance 7, enfin 10, 7, 10 ou 7, 3, 7 selon la disposition qu'on adopte. Autrement dit, une métrique fondée sur l'impair ici. Alors le poème est structuré de manière formelle avec des jeux aussi de répétition, pas tout à fait de symétrie, mais on n'en est pas loin. Par exemple, on peut très bien regrouper les vers sous forme de trois blocs métriques, 7, 3, 7, 7, 3, 7, donc un système d'alternance multiplié par deux, formant trois blocs hein, qui se répètent et qui découpent le poème à peu près régulièrement, avec, vous le voyez aussi, une alternance régulière des rimes masculines et féminines, qu'on appelle à l'époque rimes parfaites et ou imparfaites. En tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'au-delà de la conjointure thématique, lexicale, en fait, la métrique, elle, ne recoupe pas celle de la voix de Trifour. Et c'est intéressant de voir, du coup, où vient se placer l'isorythmie dans cette voix. Et vous voyez qu'en fait, elle intervient en partageant en deux un mot qui n'est pas le plus anodin hein, dans le poème, avoué perdu la vie, c'est perdu qui se trouve, j'allais dire, matérialisé cette espèce de séparation que vient introduire celui, il n'est pas nommé, mais on va savoir bientôt de qui il s'agit, celui qui menace justement la vie des fleurs du verger. Donc, le lysorythmie là aussi introduit une symétrie, mais une symétrie qui est factice, puisque la reprise isorythmique ici du discours musical n'intervient pas en fait au milieu du poème et au contraire fait apparaître une première partie plus développée que la deuxième. Donc on a l'impression que le duplum, qui semble à première lecture une sorte de brouillon rhétorique du triplum, qui, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le texte original, mais c'est un discours presque de l'ordre d'une prédication, d'une exhortation, c'est très structuré. Le duplum paraît une sorte de réponse un petit peu plus spontanée, populaire, enfin allègre, peut-être de l'assemblée, hein, le nous en atteste. Mais ce qui a d'important, c'est que d'un point de vue métrique, les rythmes sont là pour introduire une sorte de faute. Hein. Alors malgré l'expression sans fossé de la voix ici du duplum, on a l'impression que quelque chose est justement faussé dans ce dispositif, par ailleurs, extrêmement pensé, agencé, jusque dans les moindres détails. Donc il y a une première ici, une discordance, j'allais dire formelle, mais qui devient une discordance de fond, une discordance métrique et rythmique qui se recoupe avec celle du sens, puisque la voix de Duplum met en évidence un traitement beaucoup plus agonistique hein, du thème du verger marial, puisque s'oppose dans ces deux parties, d'une part la rose salvatrice, ou la rose myrrhe, hein, pour reprendre un terme médiéval, et de l'autre côté, l'adversaire, qui n'est pas nommé, mais qui fait son entrée, ici, discrètement, dans le jardin. Donc, à défaut de diabolus in musica, on a affaire ici à un diabolus in hortum. Bien caché, mais il est là, d'une manière ou d'une autre. Alors, au-delà de ces effets un peu de perturbation sémantico-formelle, eh bien, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas juste les deux textes qui se juxtaposent, qui dialoguent sur une page, une double page de manuscrit, mais on a aussi le rythme musical qui vient se surajouter à ces deux poèmes. Donc, à la concaténation lexicale se rajoute la concaténation du rythme musical qui va à son tour provoquer une distorsion. Une distorsion dans le rythme du vers, à double titre, d'abord parce que ça s'entend à l'écoute assez facilement, sur le plan linéaire, dans chaque voix, la mise en musique introduit des pauses, des silences plus ou moins longs, des mélismes, c'est-à-dire un élargissement de la durée d'émission de certaines syllabes, et par opposition des diminutions, c'est-à-dire certains fragments ou mots qui vont être traités de manière syllabique, alors que d'autres vont l'être de manière beaucoup plus amplifiée, élargie rythmiquement. Autrement dit, les variations des valeurs de notes, qui sont extrêmement précises hein, dans le cas de l'art subtilior, se traduisent par une variation dans la durée d'émission des syllabes, qui vient évidemment s'opposer à la régularité du débit du poème quand je le lis, bon, même dans le diplôme, on entend bien la variation des cadences. Alors, je me suis risquée, mais alors avec mes compétences limitées en PowerPoint, hein, donc ça donne quelque chose de beaucoup plus, comment dire, rudimentaire que ce que vous allez voir tout à l'heure. Non, mais j'ai vu ce que tu fais, donc c'est beaucoup plus précis rythmiquement. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu et ça donne ça. Alors, il n'y a pas de mesure, mais après tout, il n'y a pas de barre de mesure non plus dans les manuscrits à l'époque. Simplement, là, vous avez une sorte de mise en espace, partition rythmique, hein. Alors ça donne un peu quelque chose à la méchonique avec des espaces un peu, mais bon, voilà, je ne sais pas limiter. Où vous avez en haut, donc à l'intérieur de chaque, ça fait forme des distiques si vous voulez, mais ça n'en est pas vraiment, la voix de Triplou, donc il se lit en continu d'une ligne à l'autre, et en dessous systématiquement le discours du Duplou, avec un principe de transcription, alors qui est le plus précis possible dans son imprécision, qui est que j'ai essayé de faire coïncider le moment d'émission des deux poèmes en notant en particulier les silences. Alors ce sont les barres obliques, là, pour le coup ça n'a rien à voir avec l'isorhythmie, ce sont les silences. Une simple barre c'est un silence de minime, une deux barres c'est silence de la semi-brève et à peu près, hein, bon. Et trois barres, c'est un silence qui correspond à une perfection, à une mesure beaucoup plus large. Donc là, vous avez un peu une sorte de cartographie des deux poèmes lus simultanément, ce qui pose effectivement tout de suite la question, et je pense que vous l'avez entendu tout à l'heure, qui est le brouillage de l'énonciation, pour nous peut-être plus que pour les médiévaux, mais tout de même, il y a des moments où, de fait, les deux discours se juxtaposent et où on a du mal voilà, à la distinguer tout de même les deux voix. Donc, la question qui se pose, c'est, et là j'en arrive vraiment au cœur de mon propos, c'est au fond quel est le type de discours, de poétique que fait apparaître sur le plan rythmique, mais du coup aussi mélodique, hein, les deux vont quand même un peu l'un avec l'autre, quel type de discours fait apparaître le traitement musical du vers. Et l'idée, c'est qu'au fond, on entend d'une certaine manière un autre poème dans l'émission simultanée de ces deux discours. Alors, évidemment, vous avez là juste le début, hein, je n'ai pas fait ce travail-là sur l'ensemble du poème, mais simplement, premier constat, c'est d'abord que, de manière générale, la musique ne va pas correspondre, évidemment, à l'énoncé métrique, à la mesure du vers. Pour donner un premier exemple, bon, que vous ne pouvez pas tout à fait lire là, peut-être, mais qu'on voit bien sur les partitions, c'est que le premier vers du Triplum, hein, si je reprends le premier vers lui-même, simplement à titre d'exemple, le premier vers, donc les quatre syllabes, est énoncé dans ce qui correspond à un schéma qui correspond à 5 mesures et demie, 5 perfections et demie. Donc on s'attendrait à ce que le module soit le même, si on voulait vraiment qu'il y ait coïncidence. Or, le deuxième vers, qui fait toujours 10 syllabes, lui, va s'étendre sur 8 mesures et demie. Alors là, vous en avez déjà un premier indice du fait que la musique, le rythme musical, ne calque pas le rythme du poème. Mais ce que nous donne à entendre le début, si je prends juste le premier système donc, en haut à l'écran, c'est qu'il y a quand même ponctuellement des effets de convergence entre les deux rythmiques. Le premier vers du Triplum, certes nous fut de grande nécessité, est énoncé, bon, à une minime près, dans le même temps que alors, les deux premiers vers du Duplou, nous devons très fort amer et prisier, ou bien on peut très bien estimer que du coup, ces deux premiers vers sont aussi un décasyllable, sont perçus comme un décasyllable parce qu'on aboutit presque à un effet de rime, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait le cas, mais tout de même, entre nécessité et prisier. Alors, le poème est toutefois respecté dans cette alternance 7-3 par le fait que vous voyez, avant et prisier, on a un silence. Donc il y a quand même le sentiment que 7 plus 3, il faut le marquer. Et c'est bel et bien marqué. Mais en même temps, on peut dire que le rythme musical épouse le rythme métrique ici, de manière assez nette. Donc on a, si on s'en tient, si tout fonctionnait sur ce même schéma-là, la musique produit une illusion d'isométrie, d'une certaine manière. Mais évidemment, l'illusion se dissipe vite par plusieurs faits, entre autres par ce que j'appellerais des enjambements mélodiques qui étouffent la rime. Alors évidemment, je ne vais pas plus tout mettre sur l'écran, mais pour bien faire, il faudrait que vous ayez le poème tel que je l'ai mis en forme et cette transcription-là. Mais les deux éléments, les deux syntagmes que j'ai mis en vert, que j'ai surmis en vert ici, correspondent en fait à des formes d'enjambement mélodique. C'est le cas en particulier de « qui tout avait maté, le beau vergier rempli de maintes floues ». Et normalement, on a, enfin normalement, si on respecte le schéma d'alternance des rimes, on a certes mot de fût de grande nécessité, quand la rose entra si très douce au dour, pour rompre l'air qui tout avait maté, c'est dur la rime, le beau verger rempli de maintes floues. Et vous voyez que dans les deux cas, la musique procède à un enjambement, d'une certaine manière, puisque maté le bio est enchaîné, avec un axe, avec une césure rythmique qui intervient comme par hasard avant vergier, donc qui crée un effet d'accentuation sur le verger, mais qui du coup enjambe, efface ou étouffe la rime maté qui normalement est bel et bien présente dans la structure du vers. Même chose avec flourbain, puisque là il y a même un enjambement qu'on peut dire strophique. Hein, normalement, la deuxième bloc strophique, on le fait commencer à bain la figure de parfaite douceur, donc flourbain, bon, c'est vraiment une sorte d'enjambement qui crée une concaténation strophique, enfin qui renforce la concaténation strophique. Alors, le traitement rythmique de la mélodie, il a aussi une incidence qui est, je le mentionnais tout à l'heure rapidement, celle de distendre l'énonciation de certains mots ou syntagmes. Alors, c'est particulièrement spectaculaire et peut-être expressif, mais la question de l'expressivité là est assez délicate évidemment, sur le mot garni, la beauté dont est garnie la rose, bien colorie, avec ce garni qui se distend, oui, bonjour, presque fini, qui se distend le temps de faire, de donner place, comme par une sorte de dilatation expressive, à la douce ou dour qui vient s'exprimer à la voix supérieure. On trouve aussi des échos, le phénomène d'écho ou de paronomase, c'est par exemple la séquence que j'ai surlignée en bleu, avec des effets de percussion ou de répercussion, pour toute parfaite, doux-sourd, adressé, cansant, tout ça s'enchaîne, avec juste ce qu'il faut que de décalage pour qu'on entende les deux. Donc ça donne des effets de percussion qui sont assez expressifs à leur manière. Et enfin, un dernier élément qui est signifiant, on pourrait dire, c'est la paronomase entre la rose et rompre, hein, qui est en rouge à l'écran, où on voit bien que là, il y a un effet de sens qui apparaît, et qui d'ailleurs est un effet trompeur, puisque la rose ne rompt pas ou n'est pas rompue, mais la rose va au contraire être l'agent de cette dissipation de l'air diabolique qui menace le jardin. Et dernier petit exemple à partir de cette feuille, le dernier système, donc au bas de l'écran, fait apparaître ce qu'on appelle en musique une séquence de hoquets, hein, c'est-à-dire c'est quand une voix se tait, l'autre est entendue et inversement, donc ça fait un système d'échange très rapide, qui ici, vous voyez, constitue une sorte, est pris dans une sorte de chiasme, avec à deux reprises l'énoncé, spectaculaire parce qu'on n'entend que lui, hein, c'est celui de la fleur, hein, donc c'est presque en imitation, les fleurs, à la voix de Duploum, qui va être reprise par les fleurs en fin de séquence à la voix de Triploum. Donc il y a des effets expressifs et au fond, ces effets expressifs sont tous basés sur, me semble-t-il ici, un élément de perturbation. Et cet élément de perturbation, je le ramènerai peut-être à un élément que j'ai signalé tout à l'heure quand on regardait la voix de Triplum, c'est cette coupe à 5, cette césure à 5, qui n'en est pas une, encore une fois peut-être à certains égards, mais qui au fond semble répercuter dans cette voix de Triplum cette perturbation rythmique qu'énonce d'un bout à l'autre le Duplum. Autrement dit, l'élément de trouble, l'élément d'indécision vient que la voix de Duplum va dialoguer avec ce Triplum pour faire apparaître ce qui est au fond la définition presque du motet, c'est-à-dire une sorte de mouvance sémantique qui ne permet pas d'en rester à la célébration de la prose, mais qui au contraire s'ouvre vers une sorte d'indéfini du sens, d'indéfini du son peut-être, mais qui invite au fond à peut-être dans l'exécution à mettre en valeur ces effets de rime, ces effets qui parfois n'ont pas de sens. La séquence dans le dernier système sur douleur, maladie, si on l'enchaîne, on a quelque chose qui fait très jazz, hein, Madola Ludi, bon, on peut jouer de ces petites. De ces riens qui n'ont pas de sens, mais qui nous forcent à nous poser la question de savoir si, jusqu'à quel point tout cela repose sur un agencement aléatoire, genre cut-up, comme on l'a fait au cours de l'histoire littéraire, ou bien s'il y a, et c'est ce qui me semble tout de même, des effets de sens concertés. Voilà. Désolée pour avoir dépassé un peu.